Le plan B pour biodéchets avec Cyril Boron et Thibaut Truchet.
Bonjour, je suis Cyril Boron, je fais partie de l'association Ezenia. On va vous présenter un de nos projets qui s'appelle le plan B en compagnie de Thibaut, que je vais laisser se présenter, qui a priori va commencer à essayer de vider la salle en vous parlant de... Enfin, il est juriste en fait, et du coup il va... faire l'intro du plan B comme ça. Après, moi, je vous présenterai rapidement ce qu'on fait avec Ezenia. Et puis, bon, on fera un focus donc sur ce plan B qui est une prospective de gestion de biodéchets à l'échelle de la métropole de Lyon, qu'on a présenté en conférence de presse à Lyon le 17 novembre et qui est faite pour être essaimée. Et je suis assez content d'être là aujourd'hui avec Thibaut parce que ce plan B, il est né d'une conversation qu'on avait eue il y a un an et demi, je ne sais pas exactement quand, où en fait, il est parisien, et on parlait des biodéchets sur Paris, et il me disait que c'était pas possible de faire trop de compostage ou de non-recompostage à Paris. Tu te souviens de ce truc-là? On était parti sur de la méthanisation, et du coup, je lui disais, bah, a priori, ça doit être possible, on peut y arriver. Et donc, dans ce qu'on va vous présenter après, on a pris comme exemple notamment le premier arrondissement de Lyon, qui est une zone plus dense que Paris. Et on essaye de montrer, nous, aujourd'hui, au quotidien, qu'on peut retraiter les biodéchets, donc des ménages, des restaurateurs et des particuliers, c'est de ça dont ça parle, sans forcément avoir recours à l'incinération ou à la méthanisation de masse.
Bonjour à toutes et à tous. Je ne me rappelle pas de cette discussion. bon, alors merci d'être présente et présent. Je m'appelle Thibaut Turchet, je suis salarié d'une association qui s'appelle Zero Waste France. Je suis avocat de formation, mais dans cette asso, je travaille en tant que juriste slash chargé de campagne. Donc une partie de mon travail consiste à aider les associations locales un peu partout en France, notamment dans leurs problématiques juridiques, les luttes locales, etc. Et l'autre partie consiste à... faire du plaidoyer, ce que d'autres appelleraient du lobbying, pour que toutes les réglementations qui sortent en matière de gestion des déchets soutiennent la réduction des déchets et éventuellement le compostage, le recyclage. Donc c'est évidemment un énorme travail. Moi, le but de l'intervention, donc avant Cyril qui abordera vraiment le cas particulier de ce qu'ils ont développé concernant les déchets organiques, je vais essayer de vous resituer un petit peu très rapidement la gestion des déchets en France et surtout vous dire pourquoi la gestion séparée des déchets organiques, donc qu'on appellera ci après biodéchets, soyons au clair sur les termes, pourquoi cette gestion séparée, elle est hautement souhaitable et globalement tout à fait profitable à tout le monde, que ce soit les individus, les entreprises ou les collectivités locales. Voilà, donc le but c'est que je vous convainque de ça, même si j'imagine que potentiellement vous avez déjà votre petite idée sur le sujet. En matière de gestion des déchets en France en 2018, il y a encore du travail. Souvent, c'est marrant parce que le sujet des déchets est de plus en plus visible aujourd'hui dans les médias. Tout un mouvement zéro déchet qui est de plus en plus connu. Et donc, on a l'impression qu'en fait, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Alors, il y a un problème, si, parce que quelques chiffres comme ça à la louche pour vous assommer et endormir tout le monde. On produit en France 345 millions de tonnes de déchets par an. Ce qui inclut toutes les catégories. Donc là-dedans, il y a nos déchets ménagers, il y a les déchets des entreprises et aussi les déchets du BTP qui sont en fait ceux qui pèsent le plus lourd dans la balance. Donc 350 millions de tonnes par an au 1er janvier, vous mettez les compteurs à zéro et on recommence. Et l'année d'après, on recommence et on recommence. Voilà. Donc depuis des décennies, des milliards et des milliards de tonnes de déchets. Sur les déchets ménagers, qui sont un peu quand même nous, notre focus à Cyril et à notre association Zero Waste France, on en produit quand même quasiment 37 millions de tonnes. Donc c'est quand même pas rien. Déchets ménagers et assimilés, donc toutes les poubelles que vous voyez, y compris les poubelles de rue, les poubelles des commerçants, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça assimilés. Et dans ce 40 millions de tonnes, faut juste vous figurer quelque chose de très 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 gros. Ça fait presque 580 kilos par habitant et par an. Voilà, pour avoir un chiffre par habitant, on s'y repère un petit peu mieux. Dans ce tonnage là de 37 millions de tonnes, il y a quelque chose qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles. Ce sont les ordures, pas celles que vous avez triées, le bac jaune. Ce sont les autres ordures, la poubelle noire, celles qu'on envoie soit en décharge, soit en incinération. Et donc la décharge et l'incinération sont des modes de traitement des déchets qui sont polluant, relativement court-termiste et en particulier pour l'incinération, très très cher en réalité. Bon, alors on pourrait faire une conférence d'une heure juste pour expliquer comment ça marche et pourquoi c'est pas forcément très bien. C'est pas le but de cette conférence, donc on pourra en reparler peut-être dans les questions. Toujours est-il que le constat et le problème aujourd'hui, pourquoi les déchets sont un problème ? Parce qu'on envoie encore énormément de déchets en décharge, il y en a 230 en France. Donc il y en a, souvent on se figure que c'est quelque chose qui ne concerne que les pays qui seraient pauvres, là-bas, loin, etc. Non, des décharges on en a bien en France, et on envoie aussi beaucoup trop encore de déchets, des millions et des millions de tonnes, vers l'incinération, et en France on a à peu près 130 usines d'incinération, vous en avez deux à Lyon, que probablement si vous êtes lyonnais, en fait vous ne savez même pas que ce sont des usines d'incinération, il y en a une à Gerland et une à Rieux-la-Pape. Bon, moi je sais que je suis passé des années devant celle de Rieux là quand on vient par le périph quand j'étais petit, sans savoir que c'était une usine d'incinération de déchets. Donc ça se fond assez bien dans le paysage, et donc ces deux modes de traitement sont assez problématiques, et le but c'est essayer de faire en sorte qu'on en envoie de moins en moins en décharge et en incinération. Et dans tout ce qu'on envoie en incinération et en décharge, il y a beaucoup de ces fameux biodéchets. Voilà, on brûle des pelures de pommes, des épluchures de carottes, c'est génial, tout le monde est ravi, voilà. Et surtout, alors, ces biodéchets, en fait, constituent à peu près 30% de votre fameuse poubelle noire, celle que vous ne triez pas, là, celle qu'on jette et qui part direct à l'incinérateur. Un tiers à peu près de cette poubelle-là, ce sont des déchets organiques qui pourraient être compostés, méthanisés, etc. On pourrait y revenir après. Donc, face à cela, le législateur français n'est quand même pas si stupide que ça, et ça fait quelques années qu'on se fixe des objectifs dans la loi au moment du Grenelle, dans la loi de transition énergétique en 2015, etc. Pas mal d'objectifs qui nous disent qu'en gros il faut sortir ces déchets organiques de la poubelle, de l'incinérateur, de la mise en décharge pour en faire quelque chose de mieux. Donc il y a pas mal de réglementations qui sont votées régulièrement. La dernière et la plus importante, celle qui est vraiment une grosse avancée pour nous et on y tient très très fort, c'est une disposition de la loi de transition énergétique qui a été votée en 2015. Vous savez, à ce moment-là où on parlait beaucoup de nucléaire, parce qu'en fait, quand on parle d'écologie en France, c'est quand même un sujet qui passe un petit peu devant les autres en tout cas. Donc au moment où en 2015 on parlait de nucléaire, il se trouve que dans cette loi-là, il y a aussi quelque chose sur les déchets organiques et que, théoriquement, d'ici 2025, l'objectif est que chaque citoyen ait une solution de tri à la source de ses déchets organiques. Voilà. Donc en 2025, pour synthétiser, chaque Français, théoriquement, devrait pouvoir trier ses déchets organiques. Donc la disposition est très intéressante, très favorable, magnifique. Il faudrait l'encadrer au-dessus de nos lits. Mais il reste à la mettre en œuvre. Voilà. Vous voyez le schmilblick, évidemment, c'est toujours pareil. Donc, cet objectif-là, quand même, on en profite, on l'utilise et on le rappelle, évidemment. Combien de conférences faites depuis des années pour dire qu'il faut trier les déchets, les biodéchets à la source, que ça va avancer, et combien de conférences encore ferons-nous pour le dire et le répéter ? Bon, c'est la dernière, voilà. Pour Lyon, pour la métropole de Lyon, en tout cas. Alors pourquoi donc tant d'attention aux déchets organiques ? Parce que déjà, je vous l'ai dit, c'est 30% de votre poubelle noire, donc c'est évidemment un tonnage important. L'État estime qu'il reste à peu près 8 millions de tonnes de déchets organiques qui partent à l'incinération ou à la décharge chaque année. Donc 8 millions de tonnes, évidemment, c'est autant de déchets en moins qu'on pourrait mettre en décharge, où on fait des gaz à effet de serre, du méthane, etc., ou en incinération. Bon, donc rien que retirer ça de ces usines-là serait tout à fait intéressant. Et par ailleurs, les déchets organiques permettent, bah, quand même, ça marche depuis assez longtemps. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais ce compost, quoi, pour revenir à un état naturel et servir derrière en agriculture ou potentiellement aussi faire de l'énergie. Bon, vaste sujet. Donc, on a tout intérêt à sortir ces déchets organiques de l'incinération et de la mise en décharge pour en faire quelque chose de mieux et quelque chose qui fonctionne assez bien depuis pas mal de quelques millions d'années, apparemment, hein, si j'ai bien suivi le sujet. Alors, bon, il y a beaucoup d'arguments en faveur de cette gestion séparée des déchets organiques. On s'est rendu compte que toutes les collectivités où il y a soit des collectes séparées, soit du compostage domestique, du compostage collectif, vraiment développé de façon massive, et on pourra revenir derrière sur quelques exemples, on se rend compte qu'en fait, aussi, trier ses déchets organiques chez soi améliore la collecte des autres flux. Voilà. Alors, c'est notamment un des effets d'emballement. Quand en fait, vous triez vos pots de bananes, vos épluchures et voilà, tous vos déchets organiques, En réalité, vous vous mettez aussi à trier un petit peu mieux les autres flux, votre verre, vos emballages, vos papiers, etc. Aussi, vous réfléchissez un peu plus à vos modes de consommation. On se rend compte que finalement, la collecte séparée des biodéchets a des impacts en termes de réduction à la source et de prévention des déchets, ce qui est aussi notre but ultime, c'est-à-dire, avant le recyclage, produire moins de déchets, ce qui est possible sur certaines choses. Merci. Et globalement, c'est quelque chose qui est techniquement et financièrement tout à fait faisable et souhaitable. Minimiser les ordures envoyées en incinération, faire du compost, etc. Le problème, c'est que ces arguments-là ne sont pas forcément toujours bien reçus, notamment par les collectivités qui voient beaucoup plus d'embêtements en fait, à organiser ce genre de collecte qu'autre chose. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une grande ville, la ville de Lyon, Limoges, Paris, etc., finalement, le système marche. Voilà, les déchets, ils sont gérés. Et donc, on ne voit pas pourquoi on s'embêterait à revoir toutes les collectes, à soutenir des projets, des plans B, en veux-tu, en voilà. Alors que finalement, les ordures sont collectées, elles sont traitées, fin de l'histoire. Pourtant, les collectivités ont tout intérêt à développer la gestion séparée des déchets organiques. Baisse, donc, comme je vous le disais, des tonnages à incinérer. Il faut savoir que les ordures ménagères résiduelles dans les déchets gérés par les collectivités constituent 40% des tonnages, donc en fait c'est moins de la moitié. Par ailleurs, il y a les déchets en déchetterie qui pèsent aussi très très lourd, donc c'est moins de la moitié et pourtant c'est 60% des coûts supportés par les collectivités, notamment parce que l'incinération est un mode de traitement qui est extrêmement onéreux. Un incinérateur, ça coûte au bas mot 100 millions d'euros. Les plus gros, ça monte à 500 millions d'euros. En région parisienne, il y a un bon exemple. Et chaque année, évidemment, il faut faire tourner la bête. Et donc, c'est quelque chose c'est une chose pour laquelle on paye, hein, faire traiter des déchets en tant que collectivité. Donc, ce sont des centaines de millions d'euros qui sont investis et dépensés chaque année là-dedans. Et donc, une collectivité a tout intérêt demain à dire, bon, on va fermer une ligne, parce qu'il y a des fours, en fait, dans un incinérateur. Donc, vous avez plusieurs lignes. Et donc, les quelques collectivités qui se sont engagées assez fermement dans des démarches zéro déchet, zéro gaspillage, donc qui travaillent pour minimiser ces ordures ménagères résiduelles à incinérer ou à mettre en décharge, finalement, en fait, ont des coûts qui sont soit en baisse, soit stabilisés. Contre toute attente. Voilà. En général, on nous dit « Non mais vos trucs, là, ça coûte une fortune, c'est pas possible. Il faut embaucher des gens, il faut ajouter des tournées de collecte pour les déchets organiques. Bon, ça va nous coûter une blinde. » Eh bien, en fait, en réalité, non. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez l'ADEME. L'ADEME est une agence gouvernementale. C'est quelque chose qui est parapublic. C'est un peu comme l'État, mais en différent. Et cette ADEME-là, tous les 2-3 ans, elle sort ce qu'on appelle le référentiel des coûts. C'est-à-dire en détail de tous les coûts de traitement des déchets. Alors, des statistiques, si vous avez du mal à vous endormir la nuit, vous pouvez consulter ce document-là. Vous avez les coûts par tonne, les coûts par habitant, les coûts selon les flux, les OMR, les déchets recyclés, le verre, le plastique, bon, vous avez tout. Et l'ADEME, dans son dernier référentiel qui est sorti en 2017 pour 2014, a ajouté une partie à ce référentiel qui s'intitule « Collectivité avec moins de 135 kg d'OMR par habitant et par an ». Il faut savoir que la moyenne française, on est plutôt autour de 260 kg, c'est cette fameuse poubelle noire. Un Français moyen, c'est 250-260 kg par an. Et aujourd'hui, certaines collectivités arrivent déjà à minimiser ces ordures autour de 100-150 kg par habitant et par an. Ce qui est encore important, évidemment, mais vous voyez bien en dessous de la moyenne, presque un facteur de 1 à 2. Et donc l'ADEME constatant cela, quelques dizaines de collectivités quand même, s'est dit, bon, on va regarder les coûts de ces collectivités-là et en faire une partie spéciale, quoi. Et bien, ces coûts-là, ils sont complètement maîtrisés. Je ne vous ai pas sorti les schémas, j'aurais pu, mais quand vous regardez, ils font ça par médiane, enfin par moyenne, etc. En fait, ces collectivités-là ont des coûts inférieurs aux autres collectivités moyennes en France. Donc, il y a tout intérêt aujourd'hui pour une collectivité locale à minimiser ses ordures ménagères. Alors c'est très difficile parce que nous on est là à la tribune, on se dit c'est génial, en fait il n'y a que des arguments pour, donc on martèle, et en fait certaines collectivités soit ne veulent pas l'entendre, ou alors elles ne sont pas convaincues, ou on va dire qu'elles ne sont pas convaincues, qu'on n'est pas bon, voilà, il faut continuer à convaincre. Mais c'est très difficile finalement de se dire, regardez, vous avez intérêt à le faire et de voir que ça bouge parfois si doucement, même s'il y a un certain nombre de choses quand même aujourd'hui évoluent dans la bonne direction. Donc voilà, donc tout intérêt, finalement, on pourrait passer des heures à se dire pourquoi est-ce qu'il faut le faire, il faut le faire. Maintenant, le projet, c'est qu'on le fasse. Autre intérêt, finalement, certaines collectivités maintenant revendent le compost du déchet organique qu'elles ont géré à la source. Je crois que le compost surfin de certaines collectivités dans l'Est, elles le revendent 30 euros la tonne, donc ce qui finalement permet aussi de maintenir les coûts relativement stables et d'avoir de nouvelles recettes, etc. etc. Bon. Je ne développe pas plus sur les aspects financiers parce qu'après ça peut vite devenir compliqué et assez indigeste. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, en tant qu'asso national, on se déplace pas mal quand même sur le terrain en France et à l'étranger. Il se trouve qu'aujourd'hui, un pays comme l'Italie, et notamment l'Italie du Nord, je crois que c'est notamment la Lombardie, fait partie des régions qui sont très très engagées pour une meilleure gestion des déchets, contre toute attente, contre tous les reportages qu'on peut voir sur l'Italie, qui serait un pays catastrophique. L'Italie du Nord est vraiment en train de prendre le problème à bras le corps. Et on a des collectivités qui atteignent des taux d'ordures ménagères résiduelles, même pas 100 ou 150 kilos par habitant, mais déjà 50, 60, 70. Quoi. Ce qui peut paraître toujours important, et on se dit qu'on n'a pas résolu le problème totalement, c'est pas faux. Et en même temps, vous voyez bien que d'un facteur de 1 à 4 ou 1 à 5, derrière, en besoin d'incinération, en besoin de mise en décharge, vous changez radicalement la donne. Ce serait comme sortir du nucléaire si demain, il y avait 3 réacteurs en France. Bon, c'est pas un sujet que je maîtrise, je suis en train de prendre des risques, mais entre 50 réacteurs et il y en reste 3 ou 4 sur le territoire français, vous voyez bien que le problème est quand même largement bien mieux maîtrisé et qu'en tout cas, on va dans une très très bonne direction. Donc c'est un peu pareil pour les déchets. On peut déjà aller très très loin, ça s'est fait et ça se fait en France et à l'étranger. Alors l'étranger, peut-être que vous connaîtrez des villes comme Capanori, comme Trévise, qui ne sont pas des bourgs avec 30 habitants, qui sont des vraies villes avec des cœurs historiques, au demeurant très très beaux, mais surtout assez denses, avec plusieurs centaines de milliers d'habitants sur les collectivités. Donc on n'est pas en train de parler du village de Peterhouchnok qu'on nous renvoie toujours à la face en général en nous disant oui mais bon de toute façon vous voyez bien à Paris, à Lyon, dans les grandes villes rien n'est possible quoi. On parle vraiment de vraies villes si tant est que, enfin il n'y a pas que la ville de toute façon, mais c'est toujours l'obstacle qu'on nous dit, oui c'est bien pour les campagnes votre truc, mais en fait dès qu'on arrive et qu'il y a des immeubles en fait on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai. Je suis allé à Berlin récemment, d'ailleurs, pour aussi un voyage d'études, et il y a une collecte séparée des déchets organiques. Voilà, donc il y a des voisins européens qui le font. Pour revenir en France, une des collectivités, nous, que l'on aime bien citer en exemple, c'est le Besançon. Alors, Besançon et le Grand Besançon, qui s'appelle donc le Cyber. Ils sont membres d'un syndicat de traitement. C'est des choses administratives. Donc, il y a quand même 200 000 habitants qui sont gérés par ce syndicat. Et Besançon arrive déjà à une moyenne en gros de 150 kg d'ordures ménagères résiduelles par habitant et par an, ce qui est quand même près de 100 kg en dessous de la moyenne. Et pourquoi est-ce qu'ils en sont là? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à la fin des années 2000, je crois que c'est 2008-2009, il y a notamment des élus qui se sont dit « bon, il faut qu'on change un peu la donne, on se donne pour objectif de fermer un des deux fours de l'incinérateur ». Ce qui fait que sur cette collectivité-là, il y a un projet politique d'abandonner petit à petit ce mode de traitement et que par conséquent, toute l'énergie qui est déployée pour la gestion des déchets l'est dans cet objectif-là. Donc ça commence avec un objectif qui est très très fort et à contre-courant aujourd'hui dans les collectivités. Hein, à 130 usines d'incinération, il n'y a pas 130 collectivités qui se disent on va fermer des lignes de four loin de là. Donc objectif politique très très fort, ambitieux, à contre-courant. Et derrière, la collectivité se donne les moyens d'utiliser les outils à disposition pour le faire. Donc, tarification incitative, vous savez, c'est faire payer une partie de la facture des usagers en fonction du nombre de levées et ou du poids. Y a plein de façons de calculer cette incitativité-là, mais toutes les collectivités en France qui l'ont fait, et ça concerne aujourd'hui 5 millions de Français, donc ce n'est pas quelque chose qui est pareillement complètement exceptionnel ou dérisoire. 5 millions de Français sont déjà soumis à ce genre de tarification. Ils voient qu'ils réduisent à peu près 30% les ordures ménagères résiduelles. Voilà, en l'espace de 2 à 4 ans, grosso modo. Des fois même avant que la tarification effectivement soit mise en place, parce que il y a beaucoup de communication en ce moment-là pour anticiper la chose. Parfois, il y a des frictions, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas toujours. Il y a Bon, voilà, beaucoup d'idées reçues sur ce genre de tarification, il va y avoir des incivilités, etc. Bon, du coup, la collectivité se met en position de communiquer beaucoup pour, voilà, décrisper les choses autant que possible. Et de fait, avant la mise en place de cette incitativité-là dans la facture, déjà, les ordures ménagères résiduelles sont en baisse. Bref, en l'espace de 2 à 4, 5 ans, vous avez des performances déjà qui s'améliorent. Deuxième axe de travail, et c'est évidemment l'objet d'aujourd'hui, c'est la gestion séparée des déchets organiques. Besançon n'a pas encore mis en place de collecte séparée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bac en bas des immeubles ou chez les gens, comme ça peut se faire dans d'autres villes. Ils ont commencé par développer une politique vraiment massive de compostage de proximité, donc chalets de compostage dans les espaces publics, là où il y a de l'herbe ou un petit peu d'espace dans les immeubles, programme d'accompagnement très très important du compostage en pied d'immeuble et des gens qui sont motivés pour le faire. C'est-à-dire que dans un immeuble, vous avez 2-3 personnes qui veulent un composteur. La réponse de la collectivité est très très rapide, très cadré, ça se passe comme ça, c'est possible, en telles conditions, etc. Donc les gens sont incités à le faire. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de composteurs en pied d'immeuble à Besançon. Et donc rien qu'avec ça déjà, vous voyez qu'ils sont passés de 250, cette fameuse moyenne française, à 150. Donc sans parler déjà de collecte séparée, donc avoir des tournées de collecte en plus, des camions, en fait, ça marche comme pour les autres types de déchets, sauf que c'est pour ce type de... pour les biodéchets. Déjà rien qu'avec ça, ils atteignent des performances qui sont très très importantes. Et Besançon fait partie de ces collectivités-là qui ont des coûts globaux par habitant qui sont largement plus faibles que la moyenne française. C'est leur rapport annuel, je vous invente rien du tout, je ne suis pas en train d'inventer des chiffres, etc. Bon, d'habitude, j'ai un support pour le montrer, mais ce n'est vraiment pas quelque chose de militant que je suis en train de vous dire. C'est vraiment un constat. Et aujourd'hui, Besançon, pour avancer, réfléchit à faire éventuellement sur certains quartiers des nouvelles tournées de collecte pour les déchets organiques. Parce que, bon, en certains endroits, il n'y a pas forcément la place pour un composteur en pied d'immeuble, il n'y a pas forcément la place pour ceci, cela. Donc, les tournées, en plus, vont venir compléter, je dirais, le maillage. Donc, c'est quelque chose qu'ils sont en train de réfléchir. Bon, alors après, moi, c'est facile. Hein. Je suis là à la tribune à vous dire, regardez, il y a des jolis chiffres, ça marche bien à Besançon, ça marche bien ici, ça marche pas là. Bon, je ne veux pas non plus jeter l'anathème à toutes les collectivités. C'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça. C'est quelque chose qui, évidemment, se réfléchit. Ce n'est pas toujours évident. C'est un travail constant de sensibilisation, d'organisation, de gestion des collectes, etc. Donc, c'est pas évidemment quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est bien pour ça que c'est un service public qui est donc réfléchi par des gens qui sont des techniciens, qui ont la vision du territoire, de comment ça se passe, qui sont au contact des gens. Donc je ne veux pas non plus paraître comme un donneur de leçons, simplement j'essaie de vous rapporter un certain nombre de choses qui fonctionnent et en tout cas qui sont possibles, qui ont été faites par certaines collectivités. Donc voilà, Besançon, c'est évidemment un programme qui dure depuis maintenant une petite dizaine d'années, donc c'est quelque chose qui prend aussi un peu de temps. C'est pour ça que c'est important de s'y mettre rapidement, parce que c'est pas évidemment en 6 mois que les choses vont changer sur ce sujet-là. On pourra voir quel est ton temps de déploiement de ton plan B, Cyril, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, Besançon, très bon exemple qu'on aime bien donner. Aujourd'hui, une ville comme Paris expérimente la collecte séparée des déchets organiques dans 2 arrondissements, dans le 2e et le 12e. Donc bon, voilà, Paris, c'est une ville évidemment très très dense. On est à 20 000 habitants au kilomètre carré, il y a presque 2 200 000 habitants rien que dans Paris intramuros, donc peut-être que c'est un point de débat sur collecte séparée versus compostage domestique, lombricompostage. Toujours est-il que c'est très positif, la ville expérimente aujourd'hui des tournées de collecte en plus pour les déchets organiques sur ces 2 arrondissements-là. Donc c'est possible. Et ils ont été convaincus en fait aussi en venant voir en Italie, à Parme notamment, ou peut-être à Berlin ou ailleurs, voir comment ça fonctionne et que finalement c'est complètement possible. Et là, on a des leviers administratifs intéressants. Paris est membre d'un syndicat de traitement comme les autres collectivités qui s'appelle le SICTOM. Donc le SICTOM qui gère les déchets de 6 millions d'habitants de Paris et autour, 80 communes. Et le SICTOM, bon, contre toute attente, on critique beaucoup de décisions qu'ils peuvent avoir, parce qu'ils, notamment, ils portent la reconstruction d'un incinérateur qui va quand même coûter 1 milliard d'euros sur les 20 prochaines années, en investissement et en exploitation. Donc le milliard d'euros, on préférerait qu'il soit dépensé pour financer d'autres choses, ce qu'il y en aurait bien besoin dans une région parisienne qui recycle moins de 20% de ses déchets. Donc on part de très très loin quand même. Mais le SICTOM, par exemple, a dit « Bon, ok, moi j'ai reçu quand même le message de la loi. 2025, gestion séparée des biodéchets. Je fais un tarif préférentiel sur les biodéchets pour mes adhérents, enfin mes collectivités, mes communes adhérentes, à, je crois, 5 euros la tonne. » Voilà, donc le jour où une collectivité dit au SICTOM « Je t'amène des tonnes de biodéchets séparés, enfin gérés à la source. » Ils ne factureront que 5 euros la tonne, ce qui n'est pas grand-chose. Donc, il y a ce genre de levier administratif qui est intéressant maintenant pour accompagner quand on a une métropole, typiquement, ou un syndicat, pour accompagner ses adhérents, ses collectivités membres. Donc voilà, ça c'est un levier intéressant. Et pour ne pas parler que des collectivités, aujourd'hui on se rend compte que la gestion séparée de l'organique, finalement, est quelque chose qui intéresse aussi de plus en plus les industriels, l'industrie agroalimentaire, les supermarchés que vous pouvez connaître. Et pour revenir à cet effet d'emballement que j'évoquais au début, un supermarché aujourd'hui qui passerait de zéro action sur la prévention du gaspillage alimentaire, sur la gestion de ses invendus, qui sont des tonnes et des tonnes, hein, même pour un petit supermarché, c'est énorme. Un supermarché qui passerait de zéro à je gère mes déchets séparément, donc déjà on va les trier, peut-être les donner, mais en tout cas les mettre de côté. Aujourd'hui, non seulement il permet de recomposter ou de gérer séparément ses déchets organiques, donc au lieu de les envoyer à l'incinération, c'est déjà ça. Et en plus, souvent, cette gestion séparée les force indirectement à se pencher en fait sur ce qu'ils jettent, et en général ça a un impact en termes de prévention du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui font remonter des statistiques vraiment assez intéressantes où ils ont réduit de un tiers voire la moitié vraiment ce qu'ils jettent, parce que le fait de mettre de côté forcément questionne les gérants de magasins, questionne les gens qui y travaillent, et donc ça les amène en général à plutôt faire des économies finalement que à dépenser en fait. Parce qu'on pourrait dire, bon, alors c'est une tournée de plus pour le Carrefour du coin, donc ça va me coûter tant, etc. Au final, quand vraiment vous dézoomez, vous regardez coûts et avantages, vous avez tout avantage, quand vous êtes un Carrefour, à réduire le gaspillage alimentaire que vous faites. Tous ceux qui l'ont fait, il y a un Leclerc dans le Nord qui est très connu pour ça, à recuisiner les fruits et légumes moches ou qui sont invendus, qui commencent à pourrir, etc. Tout un tas d'actions en fait les ont amenés à pouvoir embaucher des gens presque juste en fait par cette action là, c'est à dire que les salaires sont payés simplement par la réduction du gaspillage alimentaire. Donc à terme en fait, même si peut-être ici ou là ça va coûter plus cher, ou en tout cas pendant un an ou deux ça va être plus difficile, en fait globalement on a complètement intérêt à le faire, ne serait-ce aussi que pour des raisons financières, même si évidemment ça n'est pas le levier qui doit être prioritaire, parce que sur le long terme, ça veut dire que du jour au lendemain, si c'est plus profitable, certains vont arrêter. Donc il y a aussi une éthique hein, au changement. Il n'y a pas que la finance. C'est quelque chose qui est très positif, qui devrait lever beaucoup plus d'énergie, parce que vous soyez une entreprise, que vous soyez une collectivité, que vous soyez même un individu, les foyers engagés, en fait, en général, dès qu'ils commencent à faire ça, ça amène de la réflexion, ça amène à se repencher sur ce que l'on jette. Et donc c'est absolument formidable. Voilà. Je voulais conclure. Je sais plus sur quoi je voulais conclure. Si. C'est que, voilà, alors la gestion séparée des déchets organiques, comme ça, ça a l'air très simple, ça se fait déjà. Bon, évidemment, donc c'est une politique publique ou en tout cas une politique privée quand ça concerne des groupes. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit, qui se met en place, qui se pense. Et c'est aussi peut-être un sujet sur lequel il reste aujourd'hui à inventer. Les nouvelles entreprises qui se mettent sur cette collecte-là, alors par exemple, bon, moi, je connais mieux les petits camions et les petits trucs comme ça. On se rend compte qu'en Italie, finalement, quand ils ont réorganisé toutes les tournées, et d'ailleurs, au passage, en faisant des économies, parce qu'il y a moins besoin de passer pour les ordures ménagères résiduelles, qui sont moins souillées par des trucs qui, évidemment, vont pourrir si vous gardez votre poubelle 2 semaines chez vous. Là, ils ont le petit bioseau qu'ils vident 2 fois par semaine et il n'y a aucun problème. Et bien, cette collectivité-là, Trévise, en Italie, a plus besoin de grosses bennes énormes, comme vous voyez dans les rues de Lyon ou des grandes villes ou ailleurs. C'est des chars d'assaut maintenant, hein, les camions de collecte des poubelles. Hein, c'est impressionnant. Ça coûte une fortune, ça consomme, enfin bref. Maintenant, ils ont des petites camionnettes où ils collectent les déchets. Hein, voilà, ça leur coûte moins cher, il y a moins de transport. Vous n'avez pas des bennes hyper technologiques à avoir sur place. Bon, et donc ça, peut-être que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé, qu'il a fallu inventer, qu'il a fallu réfléchir, anticiper. Et c'est pareil pour aujourd'hui les petits biosauts. Voilà, peut-être que vous avez déjà vu les modèles des petits biosauts là de 7 litres en général que vous mettez sur votre plan de travail, tac, avec les petits sacs plastiques biodégradables. On pourra en reparler, mais vous les descendez, hop, dans vos poubelles. Les poubelles sont pensées différemment parce que, bah, forcément, les pelures, etc., ça colle au fond, donc elles ont un fond arrondi que n'ont pas aujourd'hui les bacs traditionnels que vous connaissez. Donc ça a l'air d'être des petites choses techniques finalement, mais bah, c'est nouveau aussi. Il y a certainement des choses à réinventer pour s'adapter au territoire. Il y a des collectivités, quand elles n'ont pas de place, eh ben, elles fonctionnent ce qu'on appelle en totem. Donc, je ne sais pas, sur les gros piliers d'immeubles qu'il peut y avoir dans n'importe quelle ville, eh ben, vous accrochez en fait des biosauts comme ça en totem. Bon, bah, ça dépend des territoires, ça dépend des endroits où on se situe, ça dépend de l'acceptabilité de la population, ça dépend de beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose que chaque collectivité doit s'approprier, parce que finalement, il y a plein de choses à inventer et à faire. Donc, à quand les totems dans les rues de Lyon? À quand les lombricomposteurs dans le premier arrondissement? Je pose la question et j'attends des réponses hyper convaincantes, monsieur Boron, pour avancer, et que en 2025, puisque nous sommes à Lyon, on est à Lyon ici, géographiquement ou pas? Non,
nous, à Chassieux, je crois bien.
Nous sommes dans la métropole de Lyon, pour que d'ici 2025, la métropole de Lyon soit reconnue pour la gestion séparée des déchets organiques. Étant rappelé, dernier argument en faveur de la gestion séparée des déchets organiques, c'est que ça va vraiment devenir aussi une question d'image. Vous voyez bien qu'une ville comme Paris ne s'engage pas non plus que pour les beaux yeux de l'écologie. Une ville comme Paris a besoin d'exister de façon internationale, nationale, etc. Et donc, si toutes les capitales s'y mettent, ce n'est pas aussi par hasard, parce que bah, moi, quand je suis allé à Berlin, j'ai passé un week-end et j'en repars avec le souvenir qu'à Berlin, on trie les déchets organiques. Alors, ça peut paraître stupide. Nous, on comprend là, hein, on est content de ça et on se dit chouette, mais c'est quelque chose qui va rentrer dans les mentalités du grand public en général. Ça va devenir aussi un aspect discriminant peut-être entre les villes, branchées, pas branchées. Alors, je ne sais pas s'il faut faire une course à la branchitude, comme aurait dit l'autre, mais ça va vraiment devenir aussi une question d'image. Et je sais bien qu'une ville comme Lyon, dans laquelle j'ai vécu quand même quelques années, envie le statut aussi de grande capitale, capitale des Gaules, etc. Et c'est évidemment une question d'image aussi, pour que demain, une métropole comme Lyon, qui veut des tours les plus hautes possibles, eh bien, finalement, mettre aussi le nez dans ces sujets-là. Certes, moins sexy qu'une tour ou qu'un building oxygène, mais néanmoins tout aussi, voire plus important. Donc, on revient en 2025 et on verra si ça a pu avancer. Je vous remercie de votre attention et à tout à l'heure pour les questions.
Donc, je vais essayer d'être convaincant, comme indiqué. Merci Thibaut, du coup, pour ces quelques éléments. Merci Chloé pour ce café. Donc voilà, on est dans la métropole de Lyon, aujourd'hui à Chassieux. Et pendant que tu disais ça, en fait, et que Paul nous confirmait qu'on était bien dans la métropole, je constatais qu'en fait, aujourd'hui, sur cet événement qui a lieu à Heure Expo, ce qui n'est pas le cas sur tous les autres qui a lieu dans l'année, c'est nous qui sommes en train de mettre la métropole de Lyon en conformité avec la loi, en partenariat avec Aremax, parce que chaque année, en ce moment, sur Prime Vert, et effectivement, c'est un moyen de faire un test, on collecte les déchets des restaurateurs et on va les retraiter plus loin par lombricompostage. L'événementiel est assez peu développé dans le plan B, mais je pense qu'on va s'y remettre un petit peu avec Aremax dans quelques temps. Et voilà. Donc, vu qu'on a présenté ce projet-là déjà le 17 novembre, je vais reprendre un PDF où on a chinté un petit peu des bouts pour vous sortir les chiffres principaux. Vous remarquerez que l'affichage est d'une grande qualité jaune pisse. On ne sait pas trop vraiment ce qui s'est passé, mais on va faire avec. Donc, je vous sors quelques chiffres sur ce plan B. Après, si vous voulez bien, on fera un distinguo compostage, lombricompostage. On va essayer d'aller assez vite pour laisser un peu de temps sur les questions. Donc voilà, ça s'appelle Confrime Vert. Ouais. Donc on va faire assez rapidement avec ce truc-là. Non, ça veut pas. En gros, ce que Thibaut vous a présenté, nous, on s'intéresse à la loi dite biodéchets. Je suis désolé, je vous vois pas, madame. La loi biodéchets, elle est passée en 2012. Elle obligeait à l'époque, en 2012, les gros producteurs de plus de 120 tonnes de déchets annuels à retraiter leurs biodéchets sur la métropole de Lyon. Ça touchait à l'époque, en 2012, essentiellement le marché de la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent un peu, et tous les gros producteurs de type grande surface. Les autres années, enfin en 2013, je crois que c'est passé à 80 tonnes, en 2014 à 60, pour arriver il y a deux ans maintenant, en 2016, au seuil de 10 tonnes par an. Et du coup, le seuil de 10 tonnes par an, il commence à toucher pas mal de monde, notamment des lieux comme ça, mais également tous les restaurateurs qui commencent à faire un petit peu un nombre de couverts important, à savoir 150 couverts par jour. Voilà, donc nous, on trouve qu'il y a un peu trop de place qui est donnée à l'incinération. Pour faire un focus sur Lyon par rapport à ce que tu disais, la métropole de Lyon, sur ce que vous financez avec votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, c'est 300 000 tonnes par an d'ordures ménagères qui sont incinérées. Chez nos voisins de Saint-Etienne, ils sont mis en décharge. Je ne sais pas lequel est le mieux, je n'ai pas vraiment de jugement là-dessus, il faudrait qu'on arrête avec ça. Dont un tiers de biodéchets. On va s'occuper de ces biodéchets, ça coûte une fortune. La bagatelle de 44 millions d'euros par an en 2014. On s'excuse pour le manque d'actualité de nos chiffres, mais rassurez-vous, ça n'a pas baissé. Alors sur les biodéchets, on a un gisement de 22,1 millions de tonnes par an, tout producteur confondu. Ça fait toujours un tiers des ordures ménagères et ça représente donc 100 kilos par an par habitant. À l'échelle de la métropole, ces biodéchets représentent 130 000 tonnes de biodéchets pour les particuliers. On est sur 12 700 tonnes de biodéchets qui sont produits par les restaurateurs, sachant qu'en fait, c'est des estimations, puisque personne n'a jamais compté. Donc aujourd'hui, on verra un petit peu nous ce qu'on propose à la collectivité. On dit que ce serait intéressant de compter. Dites-moi, faites-moi des signes si vous ne m'entendez pas. Pierre, je te soupçonne d'être un petit peu sourd. Voilà, je vais me frotter au micro. Donc voilà, tout ceci est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je ne reviens pas vraiment là-dessus, mais ça finance essentiellement des multinationales. Et la métropole de Lyon cherche, enfin moi ça fait 10 ans que je fais ça sur Lyon, là c'est Ozenia, elle a 5 ans. J'ai vu qu'Annie Gauthier, des compostiers, enfin des ex-compostiers étaient par là tout à l'heure. La métropole de Lyon, elle a changé de côté, c'est juste ça. Fait un peu de communication et lance quelques projets en compostage sur Lyon depuis une dizaine d'années. On est pas mal d'assos à pousser pour que ça arrive un petit peu plus. J'aurais tendance à dire que du coup, quand sur un budget de 24 ou 25 millions d'euros, on met 50 000 euros par an sur du compostage, on peut appeler ça un projet de communication. Gérard Collomb est spécialiste, mais il vient de s'en aller. Donc du coup, on espère et on fait en sorte que ça change un petit peu. Et surtout, je vous le montrerai juste après, tu parlais de l'ADEME tout à l'heure, les collectivités, les communautés de communes, ça doit être un peu pour m'agacer, enfin je sais pas s'ils le font exprès, mais ça marche, communiquent essentiellement sur genre de lombricomposteur. Juste après, je vais vous montrer qu'en fait, c'est une technique qui est agricole. Vous avez une photo d'Andin à côté. On regardera également comment on peut retraiter des déchets dans des lombricomposteurs collectifs d'extérieur. Et également, gros dossier du moment, dans des lombricomposteurs collectifs d'intérieur. C'est le distinguo entre le compostage classique et le lombricompostage. C'est que du coup, les atouts de ce truc-là sont intéressants parce que ça nous permet de rentrer en intérieur ou complètement à proximité des habitations, même sur des gros volumes. Pour ceux qui connaissent également, on a, pour ne pas les citer, une boîte qui s'appelait avant Tarvel, qui s'appelle maintenant Racine, qui est juste à côté, là, qui retraite les déchets verts des particuliers, des déchetteries et des paysagistes. Et effectivement, en compostage classique, sur des gros volumes comme ça, on va avoir un petit peu de nuisance, parfois olfactive, alors que bon, si ça marche bien, normalement, il n'y en a pas trop, mais ça peut arriver. On ne va pas pouvoir retraiter les biodéchets, parce que du coup, c'est complètement hors norme, donc on ne traite que du déchet vert. Et également, on va être obligé de bétonner les sols agricoles pour arriver à faire ça. On verra après pourquoi. On parlait de l'exemple du premier arrondissement de Lyon, c'est à peu près les mêmes densités que tu citais tout à l'heure sur Paris, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ceci était complètement essaimable. Vous n'y voyez sans doute rien. Alors je fais très vite sur le plan B, tout est en ligne et puis on peut en rediscuter. Après, on a deux stands des Ezenia, un de chaque côté, un à l'entrée sur le pôle déchets et un qui est un stand Ezenia et Lombriplanète, mon entreprise qui est juste derrière Q406 ou Q407 je crois. On a pris en fait, on est parti un peu comme des entrepreneurs d'une logique économique et on a dit avec l'argent que ça coûte aujourd'hui à la collectivité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et après, Chloé Verly, qui doit être dans le coin, ah, elle est juste là, a pas mal bossé, a fait un peu de la géomatique, a sorti des cartes comme ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il était complètement possible, même sur la zone la plus dense de Lyon et la zone la plus dense d'Europe, de valoriser nos déchets en lombricompostage avec des boîtes comme ça en intérieur ou avec des lombricomposteurs en bois en extérieur. Tu parlais de gaspillage alimentaire, c'est quelque chose forcément qui nous touche aussi. Il y a mon président, graphiste, qui s'énerve sur le truc. Ah voilà, je suis vraiment désolé, je ne suis pas tellement informaticien, je suis éleveur de lombrics, mais j'ai l'impression d'avancer. Merci Thomas. On verra un peu après comment on pense qu'on peut faire ça, et surtout on verra les intérêts pour la vie des sols, sur la formation des sols. Je vous présenterai ce caillou, mais on va être obligé d'enlever la caméra qui est posée dessus. On parlera également de rendement en agriculture, on parlera également de pesticides et d'engrais chimiques, parce qu'on défend que le retour au sol de la matière organique va permettre de se passer de toutes ces choses-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de lobbyistes de chez Monsanto dans la salle, donc je pense qu'on devrait bien s'entendre. Donc voilà, aujourd'hui il y a des petits problèmes sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le Grand Lyon. Il y a des jugements, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais qui disent qu'en fait la collectivité prend trop d'argent aux particuliers. Il y a des gens qui sont en train de faire des procès, des grosses boîtes, des Novotel, des Auchan, pour qu'on leur rende de l'argent. Nous on dit investissez dans le plan B, et on a quand même l'impression... Aujourd'hui, tu disais qu'on était assez peu compris par la collectivité. Aujourd'hui, on commence, enfin, ça fait 10 ans qu'on leur parle, et on voit leur œil qui commence à briller, et ils commencent à s'intéresser à tous ces sujets. Bien entendu, ils nous donnent un gros coup de main chez Zero Waste France, ils nous donnent également un gros coup de main chez Zéro Déchet Lyon, c'est des gens avec qui on travaille beaucoup, et j'espère que ça va continuer. On va ranger ce vidéoprojecteur, vu que vous n'êtes pas nombreux et que je fais ça tout le temps, j'arrive pas à m'en empêcher, c'est pas ce que j'avais prévu. Je vais vous demander de vous lever, de vous rapprocher un petit peu. Merci. Le lombricompostage, donc, il y a un gros intérêt, c'est que ça permet de travailler en intérieur, de retraiter des biodéchets en intérieur. Ça, chez nous aujourd'hui, c'est un outil pédagogique, parce que du coup, on en a des bien plus gros qu'en compostage classique, comme en lombricompostage. Plus on est sur des gros volumes, plus c'est facile à faire tourner. Que c'est en plastique et que du coup les modèles d'extérieur dont on parlera tout à l'heure sont en bois, produits dans la vallée d'Azergues, alors que celui-là, il a rapporté à l'industrie pétrolière et qu'il a fait le tour de la France. Donc plus simple et plus gros et moins contraignant. Ça, idéalement, si vous êtes très fort et que vous le faites tourner correctement, vous pouvez le mettre dans votre cuisine. Ça va retraiter dans les 200 kg de déchets par an. Vous allez mettre vos déchets de restes de repas ou d'épluchures. Pas de viande aujourd'hui sur des petits modèles comme ça, sur les plus gros on commence à savoir faire, enfin on teste et on est en train d'y arriver, donc on est assez content. On va démarrer généralement ça avec 500 grammes de verre que je vais vous monter juste après, et vous allez mettre vos déchets donc qui sont azotés en mélange avec des déchets qui sont plus carbonés, à savoir du carton. Vous allez mettre vos déchets là-dedans, ils vont commencer à manger vos déchets. Ouf, il y a un truc dedans. Quand le premier plateau va être plein, vous allez avoir besoin de place. Vous allez mettre un deuxième plateau, vous remarquez qu'ils sont ajourés. Et du coup, quand vous allez mettre vos déchets au-dessus, les vers ne pensant qu'à manger, c'est un peu leur truc, ils vont monter, suivre vos déchets. Vous allez remplir un deuxième. Hop, ils vont continuer à se reproduire et à manger vos déchets. Vous allez mettre le troisième, ils vont continuer à monter. Quand le dernier est plein, vous prenez les deux du haut. Hop, je le fais jamais avec un micro normalement. Vous videz celui-là, vous récoltez du lombricompost et ça vous permet d'avoir de la place disponible pour continuer à mettre des déchets. Donc ce truc-là, qui effectivement est assez à la mode, est pour nous un outil pédagogique. Je vais juste après vous montrer des verres. Je vous demande une minute le temps de protéger la table parce que du coup, toutes les tables qui m'ont vu passer se souviennent de moi. Et donc du coup on va prendre un pardon Thibaut, on va prendre un sac compostable, vous inquiétez pas, les vers vont pas le manger en direct. Donc là il faut que vous vous rapprochiez encore. Chez Zénia on aime beaucoup les contacts humains et du coup vous allez. Donc voilà, on élève ces animaux là qui sont des Zénia fétida. Vous pourrez vous dire assez facilement qu'on n'est pas allé chercher le nom de notre association très très loin. Et en fait à la base on dit souvent, on entend souvent, ça m'agace, que le lombricompostage est une pratique d'appartement. On peut très bien faire ça en agriculture, c'est ce qu'on propose quand on parle de redynamiser le modèle agricole dans le plan B, c'est qu'au lieu que tous les déchets aillent sur des exutoires massifs, tous au même endroit, on maille un petit peu le territoire de plateformes agricoles qui pourraient donc ressembler à ça. Le principe de base, à la différence du compostage classique, c'est qu'on élève des animaux donc qui créent de la biomasse, qui vont attaquer la matière au moment où elle commence à être attaquée par les bactéries. Je ne sais pas où vous en êtes niveau matière, mais du coup, si vous prenez un bout de bois, il est toujours attaqué au début par des champignons aérobies. Et après, du coup, pour qu'il se décompose en compostage, on a les bactéries qui viennent et qui le dégradent en consommant de l'oxygène. Sur un compostage de très bonne qualité, vous allez au mieux dégager du CO2, mais dans des quantités quand même assez importantes. Et également, tout à l'heure, je parlais de plateformes bétonnées pour faire du compostage agricole ou collectif sur des gros volumes chez Tarvel. On est obligé de bétonner parce qu'on a des jus polluants, notamment azotés, qui vont avoir tendance à filer dans le sol. Eux, là, mangent la matière au moment où les bactéries commencent à l'attaquer. Ils s'appellent Yersinia fetida, parce que du coup, au moment où la matière rentre en ce qu'on pourrait dire putréfaction, ils vont l'attaquer, la stabiliser et justement éviter que les bactéries soient très présentes et mangent toute la matière. Du coup, ça fait qu'on n'a pas de mauvaises odeurs. Et ça fait également qu'on n'a pas de perte de matière sous forme de yad, sous forme de jus azoté. J'avais dit que j'allais vite, je crois bien que je suis en train de ne pas y arriver. Là-dedans, ils ont tendance, c'est une chose, ça va vous tomber sur les pieds, madame. Là-dedans, ils ont tendance à... Ah non, mais c'est pas ça du tout que j'allais faire, mais enfin... Bon alors d'accord, faites, moi je parle. Non mais alors, vous avez commencé, maintenant il va falloir finir. C'était pas comme ça. Bon, vous voulez pas me le mettre sur le côté, là, qu'on fasse un truc ensemble? Enfin, si les gens veulent du chanvre, je peux vous en donner, celui-là est complètement légal. Mais madame, arrêtez, mais vous êtes en train de tout me plomber, mon projet. Bon, c'est pas grave. Donc, ça ressemble plus à rien, mais c'est pas très grave. Quand les vers ont mangé ma matière, moi au début, je les élève dans un fumier de cheval, parce qu'un fumier de cheval a un rapport carbone-azote complètement équilibré. Si vous voulez bien passer ça à votre voisin. Ah non, tout pour faire des conneries, il y a du monde, mais quand on vous demande un truc, ça n'a pas l'air de nous faire très plaisir. Donc voilà, ça c'est le produit fini, ça s'appelle du lombricompost. Ça a pas mal d'intérêt culturel, ça protège les plantes contre les parasites et les maladies, ça fait augmenter les rendements, ça retient beaucoup d'eau. Et c'est produit comme ça en agriculture. Pour les raisons que je disais, on n'a pas besoin de bétonner les sols. Je donne du fumier ou des biodéchets, toujours avec un rapport carbone-azote équilibré. Le carbone dans un fumier, ça va être la paille, l'azote, ça va être les excréments animaux. Si je travaille avec des biodéchets, je peux retraiter du broyat de bois ou des déchets de paysage et je peux les mélanger avec nos fameux 130 000 tonnes, enfin 150 000 tonnes là, de déchets de restaurateurs, des choses comme ça. Ils ont tout mangé, ça ressemble à ce que vous avez dans votre seau. Je fais pour qu'ils aillent, qu'ils fassent exactement la même chose que là-dedans. Principe du lombricompostage, je fais un andain de migration. Tout cela, n'ayant plus rien à manger dans le lombricompost mûr, migre dans mon andain, dans la nourriture fraîche. Je récolte mon lombricompost, je le mets au bord du champ. Toutes mes biomasses de vers sont là, je peux renourrir. En gros, on dit qu'ils mangent leur poids par jour. Si j'ai une tonne par jour à retraiter sur une plateforme, il faut en gros que j'ai une tonne de vers. Avez-vous compris? Ah. Ça c'est en extérieur, en plein champ, ça fait 3, chez moi ça fait 3 mètres de large, 1 mètre de haut, 50 mètres de long, et vous multipliez les andins comme ça, et vous les faites aller de droite à de gauche. Les lombriques ne pensent qu'à manger, je le disais tout à l'heure, on peut les faire migrer comme ça, on peut faire, alors ça c'est un andin statique, qu'on va ramener toujours au même endroit, on peut faire des andins dynamiques, mettre les déchets cul à cul, merci, vous pouvez le garder si vous voulez, je vous fais des cadeaux. Alors, le chanvre, là, c'est parce que du coup, quand on fait des animations, on n'amène pas du fumier, parce que du coup, ça se stockerait pas. Et si j'avais des biodéchets azotés, je vous aurais présenté un truc qui pue. Si vous voulez vous approcher vraiment encore, vous pourrez constater, vu que j'en parle là, que même la litière en cours de lombricompostage ne sent rien, parce que justement, les vers la stabilisent. Le chanvre, il me permet de récolter. Moi, ce que je veux, c'est vendre d'un côté du lombricompost à des paysans, à des particuliers, et de l'autre côté, récupérer des vers pour... retraiter un maximum de matière, c'est quand même 130 000 tonnes, et de l'autre côté, pouvoir en fournir dans des gens qui démarrent des boîtes comme ça, en vendre à des paysans les 40 plateformes dont je parlais tout à l'heure qui sont dans le plan B, il va bien falloir les alimenter en verre. Donc le chanvre, il est fait pour que j'ai des grosses densités de verre. En lombricompostage, on a besoin de travailler avec 2,5 à 5 kg de verre au mètre carré, ça commence à en faire un petit paquet. Et je veux récolter que mon lombricompost. Il y aura quelques jeunes, il y aura quelques cocons. Je peux regarder si je vous en trouve un, mais on verra tout à l'heure sinon. Et donc en gros, plus j'ai des grosses densités de verre, plus je peux d'un côté en commercialiser, mais aussi plus je peux retraiter de matière. Donc voilà, si vous avez des questions, arrêtez-moi. Vous avez bien rodé que c'était pas vraiment complètement organisé, pardon monsieur l'avocat. Vraiment. Cette boîte-là, il y en a une dans un restaurant en intérieur depuis quelques temps à Bellecour. Là. Ça permet de faire du test. On en avait, bon, c'est une poubelle plastique omnium sur laquelle on a mis un petit peu de ventilation et également une trappe qui permet de récupérer le compost solide. Exactement le même fonctionnement, le principe de migration que là ou que là à une échelle un petit peu différente. Je vais vous embêter. On a mis une grille au fond pour effectivement pouvoir récupérer du jus également. Si vous voulez venir dedans, vous voir, c'est rien de faramineux, vous voyez, c'est bien de l'extérieur. C'est un truc qui va retraiter grosso modo une tonne par an. Et voilà, on pense que du coup, en installant des trucs comme ça dans les collectivités, sur déjà un restaurateur qui a de faibles quantités de déchets, on l'a pratiqué, ça marche assez bien. Après, effectivement, pour les particuliers, en fait, ça paraît assez évident. Vu que 30% du poids des poubelles des gens sont organiques, d'arriver à, quand vous avez trois poubelles dans votre pied, dans votre local poubelle, donc en intérieur un petit peu protégé, ça il faut quand même que ce soit un petit peu protégé parce que sinon ils aiment pas trop le froid. On pense que du coup c'est la solution aujourd'hui pour attaquer les déchets urbains aux endroits, dans les zones denses où il n'y a pas d'espace vert. C'est bien entendu plus simple de faire tourner ça en espace vert, mais ça donne une nouvelle potentialité. Voilà, je sais pas où on en est niveau timing. Moi, si vous voulez, on peut parler des différences compostage classique ou lombricompostage un petit peu plus. Si vous voulez, on peut partir dans la biologie du verre. Dites-moi, on peut partir sur les questions. Je crois qu'il est quasiment l'heure des questions. Si vous avez des questions. Vous...
Quand c'est enregistré. Ouais.
Est-ce que ça marche pour les toilettes sèches?
Alors la question était, est-ce que ça marche avec des toilettes sèches? On n'a pas de problème en lombricompostage à retraiter des excréments animaux, on n'a pas non plus de problème à retraiter des excréments humains. Il est où? Il est tout le temps caché. Thomas Legal, là-bas, il n'est pas en fait mon assistant informatique quand je fais n'importe quoi dans des conférences, sur des PowerPoint. Il est en train de développer, il va sur des plans de toilettes sèches, là on nous le demande assez souvent, de toilettes sèches à lombricompostage. L'intérêt, c'est que du coup, en fait, ils ont tendance à désinfecter tout ce qu'ils ingèrent. Et qu'en compostage classique, si vous compostez des déchets de toilettes sèches, on va vous recommander de les composter au moins un an, assez souvent deux, pour arriver à se débarrasser de tout ce qui est pathogène. Dans le plan B, là, je vais conclure là-dessus quand même. On demande aujourd'hui des financements à la métropole de Lyon. On est en train de monter un dossier, on essaye de prendre Vincent, un collègue en thèse l'année prochaine. On est en train de répondre à l'appel à projet de Nicolas Hulot. On n'y croit pas vraiment, je n'ai pas sûr que ces gens comprennent vraiment de quoi on parle, mais on essaye quand même pour financer tout un tas d'études là-dessus, pour financer également de l'étude sur les intérêts sur le sol, sur les augmentations de rendement, des choses dont on est convaincu, sur les intérêts. Au niveau culturel et au niveau du développement du modèle agroécologique, etc. etc. Ça va vraiment tomber, madame. Vous me faites peur.
Une petite question. La vermicompostière collective que vous avez là, en fait, c'est à peu près pour combien de familles en apport et combien de volume d'apport?
Celle-ci, là
oui.
Alors déjà, je ne sais pas quelle quantité vous mangez. Je ne peux pas non plus savoir quelle quantité vous jetez. Je ne peux pas vraiment savoir exactement. En gros, le plus petit modèle, qui est sur le petit stand des Enya, qui fait 240 litres, on l'annonce pour 16 personnes, 600 kilos par an. Donc ça va faire en gros 4 fois plus que celui-là. Et celui-là fait quasiment le triple de la capacité. Et on l'annonce souvent entre 1 tonne, 1 tonne 5. On n'a pas... alors vraiment, on est sur quelque chose d'empirique, donc c'est intéressant. On n'est pas sur une science exacte. C'est pour ça que du coup on a des fois un peu du mal à se commercialiser, autant en agriculture. On est vraiment dans une société où les gens ont l'habitude qu'on leur donne quelque chose clé en main. Et ce n'est pas un climatiseur ni une caméra, c'est quelque chose avec du vivant dedans. Et il y a vraiment beaucoup de paramètres qui vont faire que vous allez retraiter beaucoup de matière ou pas. Le premier étant la quantité de verre et l'amour que vous allez leur donner, bien entendu.
Et juste pour suivre sur la même question, on met quand même des matières carbonées aussi dans ce...
En compostage, comme en lombricompostage, obligatoire toujours d'avoir un rapport carbone-azote équilibré. On va avoir un peu plus de contraintes en lombricompostage parce que les vers, parce qu'ils sont très tanniques, ont du mal à manger les conifères. Donc on va, ça va aussi avec la question des toilettes sèches. Si vous voulez faire des toilettes sèches en lombricompostage, il va falloir travailler avec du bois blanc parce qu'ils ne savent pas très bien manger les conifères, ils galèrent un petit peu.
Donc votre restaurateur sur Lyon, il a ce bac là et il a un contenant à côté pour...
Il met du carton.
Il met du carton.
Ouais. Et là, du coup, vu qu'on se pose beaucoup de questions, on se pose aussi la question de quand Zero Waste aura gagné. Parce que c'est quand même ce qui va arriver. On va faire baisser nos volumes d'emballage, on va arrêter de tout emballer comme ça. On va peut-être avoir un problème de carton. Mais on sait travailler avec du déchet d'espace vert. Et on n'en est pas encore au stade où il n'y aura plus de carton.
Oui, j'avais des questions à vous deux, plus des questions d'élus. Vous dites... Là, c'est bon, là ? Vous dites, Besançon, par exemple, n'a pas mis en place une collecte de biodéchets. Ils ont mis en place des démarches de valorisation du compostage en pied d'immeuble ou individuel. Mais quand ils vont mettre en place une tournée, du coup, il y aura une partie du volume qui sera éteint, du volume collecté, puisque les gens auront mis en place un biocomposteur. Est-ce que ce n'est pas une folie de vouloir mettre du biocompostage d'abord avant de mettre en place une tournée de biodéchets? Est-ce qu'il ne faut pas choisir l'un ou l'autre des phénomènes? Et puis la deuxième question, c'était quand vous dites oui, il faut se fixer comme objectif de fermer un incinérateur, on va vous dire ah bah oui, mais la population augmente, surtout en Rhône-Alpes-Auvergne, et si on arrive déjà à contenir le volume total des déchets par rapport à l'augmentation de la population, ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que vous avez à redire à des arguments comme ça?
Alors, question biodéchets. Besançon, ils ont commencé avec vraiment du compostage domestique parce que c'est quelque chose aussi qui coûte moins cher et qu'aujourd'hui, les collectivités comme Amorce, enfin, j'imagine que vous connaissez ça vu la question, rétorquent vraiment par des raisons de coût. Donc aujourd'hui, un accompagnement comme ça est quand même un peu moins onéreux, en tout cas au début, qu'une collecte en plus. On n'a pas les résultats encore de leur étude et de ce qu'ils vont faire dans les prochaines années. Je pense qu'en fait, là où il y a déjà une bonne politique de compostage de proximité et pas mal de choses en pied d'immeuble et des chalets, je ne pense pas qu'ils rajoutent une tournée dans ces quartiers-là. Je pense qu'ils vont rajouter des tournées là où peut-être il n'y a pas encore de bonnes performances, etc. C'est vraiment dans la mesure où les collectivités veulent garder l'adaptabilité. Ce n'est même pas des préconisations, là, pour le coup, associatives. En général, c'est plutôt une demande de la part des collectivités qui est ne nous imposez pas soit la collecte séparée des bacs en plus, ou ne nous imposez pas le compostage domestique, etc. En général, c'est plutôt les collectivités elles-mêmes qui aiment bien maîtriser l'outil. Donc, on verra comment ils surrajoutent une tournée de collecte, s'ils le font. Mais je pense que, oui, en effet, ce sera un calcul pour pas qu'il y ait des détournements de tonnage, ou alors quitte à tout fermer, à rajouter une collecte. Bon, ça, c'est vraiment un truc de technicien, mais c'est évident qu'il faut que ce soit efficace s'il y a des camions. Enfin, c'est pas pour collecter 2 kilos chaque semaine, ça, c'est clair. Et l'autre question était l'incinération. Bon, alors, il y a l'augmentation de la population, bon, qui globalement en France, quand même, il y a certaines régions qui augmentent, mais la France, on a quand même maintenant tendance à stagner, comme pas mal de pays occidentaux. Bon, globalement, le volume par habitant de déchets à incinérer baisse, c'est-à-dire qu'il y a déjà une baisse tendancielle qui est de l'ordre de 1% par an. Alors, c'est pas grand-chose, mais sur 10 ans, moins 10%, finalement, ça fait quand même des tonnes, et c'est les objectifs de la loi, c'est-à-dire en 2020, qu'on fasse moins 10% par rapport à 2010. Donc, globalement, cette baisse tendancielle par habitant, c'est un peu le truc mainstream de un peu mieux trier, un peu réduire le poids de certains emballages, faire un peu attention à sa conso. Donc, qu'on soit engagé ou pas, enfin, la population française, en gros, c'est moins 1%. Donc ça, c'est plutôt une tendance qui est bonne. Et après, comment est-ce qu'on peut fermer éventuellement ou réduire des capacités d'incinération, de mise en décharge? C'est En fait, en baissant ces taux par habitant, de passer de 250 à 100, 150, c'est ça vraiment qui, malgré une augmentation de population, quelques centaines, quelques milliers de personnes, fait en fait du chiffre, quoi. 100 kilos sur une population de 150 000 habitants, vous faites le calcul, en moins, ça fait... mon bac, c'est loin. Enfin, ça fait des gros tonnages comparé à si on avait 2000 habitants en plus qui produisent 200 kilos. Enfin, vous voyez un peu le calcul. Après, ça, c'est aussi un truc de technicien qui est qu'ils ont leur propre projection. Donc, augmentation ou baisse de la population, quelle projection on fait en termes d'OMR à incinérer ou à mettre en décharge, et qu'au final, ils regardent la faisabilité de ces décisions-là. Et en l'occurrence, Besançon est sur cet objectif-là de fermer un four et va probablement y arriver, quoi. Après, c'est quelque chose qui aura pris... de l'ordre d'une quinzaine d'années, mais c'est quelque chose qui est jouable, en tout cas sur certains territoires. Et c'est intéressant, en tout cas, de commencer par se poser la question. Je dis pas que c'est un scénario qui est tenable pour toutes les collectivités. Ça le serait par exemple à Paris, où on pourrait ne pas reconstruire cet incinérateur là si on progressait. Il y a deux autres usines d'ailleurs qui traitent des centaines de milliers de tonnes par an, et en fait l'intérêt, c'est en tout cas de se poser la question à un moment donné en tant que collectivité, en disant bon, et si en fait on essayait d'analyser en tout cas ce scénario là qui en fait aujourd'hui clairement n'est pas étudié dans beaucoup de collectivités. Après, c'est pas lié que à l'incinération, enfin ça concerne aussi les collectivités qui ont des décharges, même si du coup les problématiques sont pas les mêmes sur une décharge, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'étudier ce scénario. Si on se dit bon, bah demain, avec la population qu'on aura dans 15 ans, tel ratio à incinérer ou à mettre en décharge, qu'est-ce que ça donne? Et aujourd'hui cette seule étude là elle est souvent pas faite en fait par les collectivités, donc c'est ça qui est aussi dommage, quoi. Je sais pas si, j'espère que ça répond à votre interrogation.
Oui, très rapidement. Sur l'augmentation des populations des grandes métropoles françaises, nous, on essaye justement on travaille beaucoup dans le social avec Ezenia. Et sur des projets comme ça, mais également sur pas mal d'autres projets, on est en train de dire que ce n'est pas forcément nécessaire. Aujourd'hui, cet attrait de population où on crée du travail que à des endroits où tout le monde vient vivre là, ça participe aux 60 000 hectares de bétonnage de sols agricoles chaque année. Ça participe à pas mal de choses qu'il y a. Ça participe à... On construit du logement social alors que les campagnes se vident et que du coup, on pense qu'il y a intérêt, du coup, que ce genre de projet peut participer à remettre un petit peu de dynamisme dans nos campagnes en dynamisant le modèle agricole, en d'un côté retraitant des biodéchets, mais justement en produisant, en faisant de l'agriculture périurbaine. Là, il y a un enjeu. Sur la collecte de biodéchets, je vous invite tous à regarder un peu. Je pense qu'ils vont la retirer assez vite, mais cette campagne ridicule de GRDF qui est sorti il y a quelques jours, qui incite nos enfants à ne pas finir leur brocoli. Donc je vais passer un petit coup de fil au responsable régional en lui disant qu'est-ce que vous êtes en train de faire, parce que du coup, on ne peut pas laisser des grosses boutiques comme ça communiquer l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui à la population. Sur les collectes de biodéchets, on est en train de dire que ce n'était pas nécessaire, qu'on peut les retraiter sur place, en circuit court, qu'on peut les collecter en vélo, sans mettre d'autres camions sur les routes, au passage, en enlevant 30% du poids de nos poubelles, donc également un tiers des camions poubelles, et que c'est le début d'un vaste projet Zero Waste. C'est un peu là où, du coup, les collectivités ont souvent du mal à nous entendre, parce que je vous avoue qu'effectivement, aujourd'hui, à la métropole de Lyon, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui. Ils ne sont pas venus le 17 novembre, ils ne sont toujours pas là aujourd'hui, mais on va en reparler quand même. On a plus tendance à discuter avec Suez qu'avec Ezenia, ou donc avec GRDF. La méthanisation aujourd'hui, on pourrait détailler, mais je ne sais pas vraiment si on a le temps. C'est l'étape suivante de la fin de la mort des sols, parce que les sols ont besoin de carbone et d'humus. Et donc, effectivement, quand vous allez faire du méthane, je dis qu'on n'a pas le temps, mais je le fais quand même, c'est pas très grave, on va prendre le temps. Quand vous produisez du méthane, alors déjà, on collecte des biodéchets qu'on est obligé de collecter très souvent avec des camions, en vous disant on les fait rouler au méthane. Bon, d'accord, ce serait quand même plus intéressant énergétiquement d'enlever les camions. Les biodéchets ne se stockant pas, en fait, il faut les collecter très souvent. Et après, la méthanisation, c'est un espèce de c'est pas du compostage, c'est un compostage anaérobie qui va faire en sorte, je suis pas du tout spécialiste, par contre de ce que j'en sais, et je crois que là j'ai bon, on va extraire du méthane, donc du CH4, donc le carbone de nos biodéchets, de nos déchets également, et il va nous rester un digesta qui était complètement interdit en agriculture biologique, et vu que ces gens sont très forts, c'est en train de passer, autorisé doucement. Le produit n'a pas changé, il y a juste la norme qui change. Et effectivement, c'est sur des trucs comme ça qu'il faut qu'on bosse également. Le digestat méthaniseur va être chargé en azote négatif sous forme de NO3- très souvent, et du coup qui va être complètement lessivable si on le jette sur des sols morts. Je dois avoir un autre échantillon de sol. Ben non, je ne l'ai pas. En fait, aujourd'hui, les sols agricoles sont complètement argileux. On pourrait partir également à parler de complexe argilo-humique. On a besoin de créer du complexe argilo-humique pour arriver à faire de l'agroécologie. Et on a donc on exporte toute la matière organique. Donc on n'a plus d'humus, donc plus de complexe argilo-humique. Et aujourd'hui, on nous propose de venir cracher de l'azote sous forme liquide sur les sols agricoles. Et c'est sans doute la prochaine catastrophe alimentaire si on laisse ces gens-là construire des gros méthaniseurs. Mais on pourra en parler très longtemps. J'ai pas l'impression d'être très clair pour madame, mais... Mais exactement, mais je ne vous félicite pas.
Enfin, j'avais déjà des doutes sur la méthanisation qui me semble être un moyen de conserver des réseaux de gaz naturel pour une justification qui n'en est pas une, puisque en fait le gaz méthanisé dans les réseaux de gaz, c'est aujourd'hui 0,5%, je crois. Aujourd'hui. Et donc pour 0,5%, on maintient des réseaux de gaz naturel et on va importer du méthane qui est lié à des gaz de schiste. Et donc on va justifier sous une étiquette d'énergie verte un réseau qui est fait en fait avec des énergies fossiles très polluantes. Voilà, et je me dis aujourd'hui on a peut-être plus intérêt à promouvoir d'autres énergies renouvelables que le méthane qui en plus n'est pas le même métier que celui d'agriculteur en final et qui plombe véritablement en termes d'investissement les agriculteurs. Mais je ne voudrais pas être...
Alors sur les investissements, effectivement, les investissements sont conséquents quand vous voulez monter un méthaniseur sur une exploitation. C'est pour ça qu'on propose des choses un petit peu différentes. On n'est pas complètement anti-méthane. On pense qu'il faut faire des micro-méthaniseurs qui auront du coup des volumes d'épandage de digesta peu importants. Un épandage, c'est si vous élevez des cochons, vous vous retrouvez avec du lisier. Si vous faites de la méthanisation, vous vous retrouvez avec des digestats à épandre. Il y a des normes là-dessus. Plus le méthaniseur va être gros, plus pour aller épandre les digestats, vous allez avoir besoin de mécanisation, de remettre des camions. Vous allez nous dire, il roule le méthane, mais ça n'aura qu'un intérêt quand même. Pour aller épandre. Et plus les gens qui font les normes, pour arriver à gagner des sous, notamment sur les transports, vont charger nos sols en azote alors qu'ils ont besoin de carbone. Micro-méthanisation, très bien, mais par contre du coup sur la micro-méthanisation vous vous frottez à un autre problème, c'est-à-dire que nous du coup sur tout ce dont je vous parle tout à l'heure, j'ai une multinationale en face de moi qui fait des chiffres assez faramineux. Aujourd'hui GRDF veut aller collecter la matière des 130 000 tonnes des particuliers, ceux des restaurateurs, etc., etc. C'est déjà commencé sur Paris, il y a des gens que je ne citerai pas parce que je les aime bien quand même, qui annoncent qu'ils font du compostage et qui en fait refilent tout à GRDF en faisant très très peu de compostage. En fait du coup on cherche à autonomiser des modèles. Si vous mettez un méthaniseur chez Thibault, hein, chez Paul, hein, chez Amaury, tout ça, qui c'est qui va vous vendre du gaz? Vous allez le produire tout seul. Et là, du coup, on est face à des lobbies complètement faramineux qui, eux, du coup, effectivement, veulent que votre fils ne finisse pas ses brocolis. Mais c'est... ça marche pas, quoi. On peut se passer d'azote parce que, du coup, si on doit mettre qu'un des deux, il faut mettre que du carbone. Mais il ne faut pas mettre que de l'azote. Complexe argiloïque, je n'ai pas envie de rebrancher le vidéoprojecteur. J'aurais pu vous lancer une jolie image jaune pisse. Ça parle à qui? Parce que je parle de ça depuis tout à l'heure. Si ça vous parle pas du tout, il faut que j'explique. Je peux avoir mon caillou? Ce n'est pas un bulletin de vote pour Laurent Wauquiez. On s'amuse à mettre des sédums qui sont des végétaux pionniers Enfin, je m'amuse, c'est génial, ils me prennent tous pour des dingues quand je fais des trucs pareils, pour un dingue. Je fais un trou avec un perfo dans un bout de granit, dans un bout de brique, dans un bout de bois, dans ce que vous voulez. Et j'y mets un peu d'humus, du lombricompost mûr, et j'y plante ce qu'on appelle un sédum, qui est un végétal pionnier. C'est pour exprimer, ça marche très bien en animation avec les enfants, j'espère que ça va marcher aussi avec vous. C'est pour exprimer la formation des sols. Tout sol est fait, alors ça pourrait être une roche mère granitique, tout sol à différentes hauteurs, mais du coup à la base était un caillou. Il peut être argileux, il peut être plutôt calcaire, il peut être plutôt acide. Il y en a de différentes formes, mais le sol s'est toujours formé comme ça. Il y a des plantes qui vont pousser, qui vont mourir, enfin qui vont s'installer, les végétaux qu'on appelle pionniers, qui vont ensuite mourir, produire production primaire de matière organique qui va être mangée par les dégradeurs, nos lombriques mais également plein d'autres, qui vont donc produire de l'humus. L'humus va sous l'action de la pluie produire de l'acide humique qui va attaquer un petit peu la roche et du coup sur une infractuosité du caillou aller le dégrader un petit peu. La plante se nourrit d'acide humique, ça tombe bien, à la fin elle va aller avec sa racine se remettre un petit peu dans la faille. La racine va grossir, au fil des saisons, l'hiver, de l'eau va rentrer dans la faille, ça va geler, ça va écarter un peu la faille, la plante va grossir, il y en aura d'autres, des bien plus grosses, qui vont perdre ses feuilles, qui vont perdre, etc., etc. Et au final, on crée de l'humus. En milieu naturel, vous avez des déchets carbonés, des feuilles plutôt carbonées qui tombent des herbes, vous avez des branches également qui meurent, des arbres entiers qui tombent, qui sont tout d'abord dégradés. Je vous ai amené plein de surprises. Qui sont dégradés donc à la base par les champignons. On nous dit qu'on ne peut pas retraiter du bois. Ça, c'est un truc où je m'amuse à faire pousser des pleurotes. Ça, c'est un champignon qui commence à attaquer du bois. C'est du carbone. Le champignon sait très bien l'attaquer. On n'est pas du tout obligé de le broyer et de l'emmener en déchetterie, puisque dans 2 ans, il sera comme ça. Complètement mou, complètement mangeable par des lombriques. Pour en revenir à mon complexe argilo-humique, j'ai ça qui se passe sur le caillou. J'ai des argiles qui se forment. J'ai de l'humus qui se met dessus. Ce qu'on enlève complètement en agriculture, ce qu'on enlève, moi à la base je suis paysagiste, quand vous tondez un gazon pendant des années, une production végétale, et à chaque fois vous le prenez, vous l'enlevez, vous l'enlevez, vous l'enlevez, vous épuisez votre sol. Le complexe argilo-humique, c'est un mélange entre la couche minérale du sol et la couche humifère qui va être quelque chose de négatif, chargé négativement au niveau chimique, et qui, du coup, s'il existe, donc si vous avez de l'humus sur de l'argile, va arriver à retenir, car il est chargé négativement, notamment du carbonate de calcium, du Ca2+, qui va créer, vu qu'il a 2+, vous êtes un peu chimiste ou je vous embrouille complètement là, je vois bien qu'ils s'en vont, mais on va parler d'autres trucs assez rapidement, et c'est vous qui m'avez demandé, c'est pas grave. Donc on va créer, on aura un complexe argilo-humique négatif, on va avoir un Ca2+ qui tombe, qui s'accroche, parce que les moins et les plus s'accrochent, même si vous êtes nul en chimie, souvenez-vous au moins de ça. Du coup, ça va donner un deuxième plus qui va pouvoir permettre d'accrocher des moins également. Et le complexe argilo-humique va accrocher en fait tout ce qui descend dans le sol. Ça va le stocker et en plus ça va le rendre disponible sur les plantes. Si vous enlevez l'humus et que vous faites qu'exporter tout le temps, vous privez de ce pouvoir de rétention du sol, qui est également le pouvoir épurateur en eau, puisque vous mettez une eau chargée, ou un digesta, ou un lisier, dont on parlait tout à l'heure, vous le crachez sur un sol où il y a un complexe argilo-humique fort, l'eau va traverser et va s'épurer, parce que tous les éléments minéraux vont se fixer. Alors que du coup, si vous jetez la même chose sur un sol complètement argileux, ça va soit ruisseler, soit traverser sans retenir du tout d'éléments. Voilà, nous en fait à la base on vient plus de l'agriculture que des déchets, et effectivement on met des points de vigilance à plein d'endroits différents qui à la base outrepassent un petit peu peut-être ce qu'on est vu faire là, mais qui nous paraissent importants quand même. Prends un micro.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que les plantes, 95% en fait d'une plante pousse non pas grâce au sol mais grâce en fait à l'atmosphère. Donc 95% de ce qu'elle prend est dans l'atmosphère. Et donc toute l'agriculture dite moderne joue énormément sur l'azote, parce qu'en fait c'est une solution de facilité pour la plante. C'est-à-dire qu'en lui apportant en fait de l'azote, on simplifie son système de nourriture. Elle n'est pas obligée en fait d'avoir recours à d'autres procédés pour avoir en fait pour fabriquer cet azote dont elle se constitue. Donc en fait, et c'est pour ça qu'en fait qu'il y a de grosses discussions sur justement la mémoire des plantes et tout ça qu'on rend fainéantes parce que on leur amène en fait une espèce de bouillie pré-mâchée et qui permet en fait de la faire pousser très vite. Bah forcément, je veux dire, c'est comme si on lui injectait quelque chose qui est prédigéré. Donc du coup, merci de ne pas filmer. Voilà. Donc ça, c'est un truc en fait hyper important et que si vous voulez voir en fait des choses très intéressantes, il y a Claude et Lydia Bourguignon qui sont en fait des gens qui travaillent beaucoup sur le sol. Ils insistent beaucoup sur une idée qui est extrêmement importante, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en France, si on n'avait pas d'activité humaine, il y aurait 80% de forêt. Donc, systématiquement, quand vous abandonnez un terrain, la posture naturelle, en fait, de la nature, c'est donc, comme expliqué, en fait, Cyril, et là, je vous invite, en fait, à tous les travaux de Dusserre, c'est de lancer, en fait, des plantes pionnières. Entre parenthèses, l'ambroisie est une plante pionnière, en fait. À la base, en fait, c'est une plante qui pousse en périphérie, en fait, des déserts américains et elle s'installe, en fait, dans les sols. Et c'est comme la renouée du Japon parce qu'elle est le témoin des problèmes du sol. Et que pour traiter l'ambroisie, je travaille avec un agronome qui s'appelle Konrad Schroeder et qui a fait, en fait, un certain nombre d'expérience, entre autres dans la métropole de Lyon. On lui a demandé par rapport à l'ambroisie de traiter. Il a dit c'est très simple, il est arrivé avec une brouette de BRF, donc du carbone, il l'a balancé sur le sol, il a dit on se revoit dans un an, et dans la zone où le sol a été aggradé avec du carbone, l'ambroisie, voilà. Et donc c'est très important ce qu'il a expliqué, Cyril, c'est que en fait, il y a des plantes pionnières qui sont là pour en fait préparer le sol à ce qu'il y ait une succession. Et la finalité dans la quasi-totalité en fait du biotope en Europe, c'est de la forêt. Or, c'est de la forêt. Et la forêt, dans la forêt, il n'y a pas d'azote. Il y a du carbone. Mais enfin, proportionnellement, en très faible quantité. Proportionnellement, en fait, en très faible quantité, pas en fait par rapport au système culturel actuel. Voilà. Donc, ben voilà, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, on focalise beaucoup sur l'azote, alors qu'en fait, c'est plus un problème qu'une solution. Et je rajoute une dernière chose que Cyril a survolé, c'est la notion des champignons, et qui aujourd'hui, en fait, sont un élément extrêmement important justement pour toute la gestion et d'ailleurs les scientifiques se rendent compte de leur importance à tel point qu'ils sont en train de revoir dans la chaîne pas alimentaire mais de la chaîne en fait qui dit mammifères tout ça, voilà, quelle est leur place parce qu'ils veulent les considérer comme des êtres vivants à part entière. Et là il y a plein de films qui sont en train de sortir par rapport à ça.
Excuse Pierre, j'ai recalé un peu sur le plan bio, je crois qu'on s'égare un peu quand même, mais donc voilà, on fait un distinguo, et je rebondis sur un truc que tu disais là, de Konrad Schreiber. Là. Ce gars-là, moi, c'est des choses qui sont pas sourcées, donc que je reprends pas, parce que je cherchais les sourcées aujourd'hui. Il est en train d'annoncer que quand on composte de manière classique une tonne de matière, on a 6 à 700 kilos de CO2 qui s'échappent par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis ben voilà, ben, je pense qu'on peut conclure pour aujourd'hui. Après voilà, on vous invite à venir nous aider, que vous soyez restaurateur, que vous soyez paysagiste, tout simplement que vous mangiez. On a besoin aujourd'hui que les politiques comprennent un petit peu ce dont on vient de parler. Et peut-être je te laisse le mot de la fin et je te remercie beaucoup d'être venu faire ça avec nous.
Merci d'être venu. C'est vrai que la pression citoyenne, c'est un peu toujours la conclusion des conférences, et c'est comme ça que les choses bougent, c'est comme ça que c'était écrit dans la loi en 2015, parce que des gens demandent ça à travers des assos, mais les assos, ce sont les gens qui les composent. Donc et n'hésitez pas à faire savoir, à mettre cette pression-là, à rejoindre des assos, des mouvements qui disent que voilà, aujourd'hui c'est la direction qu'il faut prendre, l'objectif 2025, voire avant, si possible, pour gérer nos biodéchets de façon séparée. C'est tout à fait souhaitable, enviable, et en tout cas, on espère qu'on vous a convaincu. Merci beaucoup.